103,5.
De plus en plus, les journalistes de la République démocratique du Congo sont victimes du mauvais traitement de la part de certaines autorités politico-militaires. Les uns sont arrêtés arbitrairement, les autres sont agressés physiquement, voire même tués dans l'exercice de leurs fonctions. Alors face à ces exactions, une question se pose. Comment sécuriser les journalistes dans leur métier et quels sont leurs droits? Nous faisons le point aujourd'hui avec Maître Dominique Kamwando à ce sujet dans la chronique consacrée bien sûr à l'ONG Avocat. Sans frontières, pour vous qui nous suivez à travers le pays et même au-delà de la RDC, vous êtes les bienvenus au 081 070 2050. Retenez que dans cette émission, nous aurons également un deuxième invité. Il s'agit de Donam Baya, président de l'ONG Journalistes en Danger. Donc tous les journalistes de la RDC et les journalistes congolais et même d'autres sont invités à réagir au 081 070 2050. Jolie Lamba Livoto, vous vous êtes penché sur la question. De plus en plus, les droits des journalistes congolais sont violés. Est-ce que cela nous pousse à dire qu'en RDC, la liberté de la presse n'existe plus?
Vous savez, Nicole, cette question, nous l'avons aussi posée à Chantal Kayimbo. Elle est présidente de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle. Et selon elle, la liberté de la presse existe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais de temps en temps, souvent, on observe des dérapages, des entraves à la liberté de la presse et au droit d'informer l'opinion publique. Et d'après elle, la question sur la sécurité des journalistes ou le droit des journalistes se pose depuis plusieurs années aux autorités, mais peu de forces sont fournies à ce sujet. On l'écoute.
Il est un fait qu'effectivement, il y a toujours ce climat d'insécurité qui règne, qui pousse parfois les journalistes à l'autocensure, qui empêche le journaliste de faire effectivement son travail en jouissant de la liberté de la presse. Et ça, je crois, c'est condamnable. Et chaque fois qu'il se pose un problème dans l'exercice de notre métier, nous interpellons les pouvoirs publics pour que ils assument leurs responsabilités parce que la liberté d'expression est garantie par la Constitution et toute personne, tout journaliste doit pouvoir bénéficier et exercer cette liberté. Bon, il y a des menaces, il y a des harcèlements et autres intimidations, comme c'était le cas récemment avec nos confrères de Horizon 33. Surtout à la suite des assassinats de nos confrères Fangiki et son épouse, Bapou Amamba, Serge Maïsé, et tout récemment encore ce photographe à Goma, ce photographe reporter, la question se pose toujours avec effectivement acuité. Et nous, à notre niveau, nous continuons à interpeller le pouvoir public parce que c'est là le seul pouvoir que nous avons d'interpeller le pouvoir public afin qu'ils puissent assumer leur devoir, leur responsabilité qui est celui notamment d'assurer la sécurité des personnes et des biens et plus particulièrement des journalistes.
C'était Chantal Kanibo, qui est la présidente justement de l'Union de la presse congolaise. Il est vrai, Jolie, qu'on observe souvent des dérapages vis-à-vis des journalistes dans le cadre de leur fonction. Chantal Kanibo a relevé notamment le cas de Serge Maïsé, du couple Ngike. Il y a aussi d'autres cas qu'on peut citer. Nous inviterons tous ceux qui nous suivent à travers le pays. Vous avez été agressé dans l'exercice de votre fonction. Vous êtes journaliste. Pourquoi ne pas témoigner au 081 070 2050? Alors, nous savons qu'il y a eu beaucoup de cas. Alors, hormis ces cas que Chantal Kanibo a cités, est-ce que vous avez relevé d'autres cas?
Oui, c'est vrai que chaque jour, plus d'un journaliste sont victimes des mauvais traitements, des agressions physiques, des arrestations arbitraires de la part des personnes influentes ou des autorités politico-militaires. C'est le cas, par exemple, de Gaston Galamouloumé. Il est journaliste de la radio Étoile et émettant à Kamako, localité située à 150 km de Tshikapa, dans la province du Kassai-Oriental. Il a été arrêté et enfermé dans un cachot au mois de juin 2006 dernier, sur ordre d'un commandant de la police locale. Et pour cause, la diffusion d'une pièce de théâtre radiophonique relatant le récit d'une femme violée par un officier de la police. Et par la suite, le commandant a exigé qu'on lui ramène la cassette de la pièce de théâtre et après l'avoir auditionnée, il a estimé que cette pièce visait à discréditer la police et le commandant, fou de colère, a décidé de l'arrestation de ce journaliste et ordonne en même temps son passage à tabac par ses hommes en uniforme. À Kinshasa, nous avons aussi beaucoup de cas, nous pouvons citer aussi le cas de Ghislain Gatéba, caméraman à la chaîne privée RTGA. Ce dernier, comme vous le savez, a été battu au mois de mai 2006 aussi par une meute de policiers commis à la gare de l'artiste musicien Werason. Il a été envoyé par sa rédaction pour couvrir l'arrivée à Kinshasa de la star américaine Shaggy. Et selon lui, parce que nous lui avons tendu le micro, il dit qu'il était dans le cortège qui revenait de l'aéroport international d'Indini lorsqu'il a été tiré hors de sa voiture par les policiers qui l'ont roué de coups. Ils ont cassé sa caméra, emporté la cassette qui contenait les images de cet événement sans aucun motif valable. Et il s'en est sorti avec des enflures et a été soigné dans un centre hospitalier de la place.
Nous invitons vraiment tous les journalistes à participer à cette émission parce que nous parlons aujourd'hui du droit des journalistes en République démocratique du Congo. Vous voulez témoigner, hein? Pourquoi ne pas nous envoyer un SMS au 081 070 20 50 ou nous écrire à action@radiocapi.net. Nous savons que chaque année, on enregistre des cas de violation des droits des journalistes congolais et j'aide du reste est bien placé pour cela.
Nous, comme vous venez de le dire, chaque année on enregistre de cas de violation des droits des journalistes congolais. Nous avons par exemple la réaction de la MONUC suite à l'agression d'un journaliste de Radio Kapi. Et ici Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC, l'a dit le mercredi dernier au cours de la conférence de presse. On l'écoute.
Mercredi 31 octobre 2007, alors qu'il accompagnait une équipe de la section des droits de l'homme de la MONUC Ouvira à l'Émirat pour enquêter sur l'arrestation d'une cinquantaine de présumés sorciers menacés de mort par la population de Luvungi dans la plaine de la Rouzi, Fiston Ngoma, journaliste à Radio Okapi Ouvira, ainsi que la délégation de la section des droits de l'homme de la MONUC ont été menacés par cinq gardes du corps du Mwame Ndare Simba, chef de cette localité. Fiston Ngoma a été retenu pendant 10 minutes dans une cellule par ses gardes, qui l'ont obligé à effacer tout ce qu'il avait fait comme enregistrement, prise de son, image, avant de proférer des injures à son encontre et de le molester. Fiston Ngoma n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de l'escorte de la PNC à celle du Mwami. La MONUC condamne avec la dernière énergie l'agression physique dont a été l'objet un journaliste en plein exercice de son métier, d'autant plus que le rituel consistant à identifier les sorciers avait un caractère public et se déroulait devant une dizaine de militaires des FRDC et une centaine de civils. La MONUC dénonce cette entrave flagrante à la liberté de la presse et au droit d'informer.
Voilà, donc là c'était sur les violations subies par le journaliste Fiston Ngoma, journaliste de Radio Kapi, qui évolue du côté de Ouvira. Mais le dernier cas des violations des droits des journalistes, si je ne me trompe, c'est celui de deux journalistes de l'Horizon 33.
Oui, c'était le 22 octobre dernier, le journaliste Eustache Namunanika et le caméraman Didier Lofumbois de la chaîne de télévision privée Horizon 33 avaient été battus par des policiers sur ordre du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Ici, je vous propose de suivre le récit de l'événement par Jean-Pierre Ngunda, avocat de l'Horizon 33.
Je veux dire que c'était un certain lundi. Ils sont partis sur l'invitation du ministre d'État, chargé de l'enseignement supérieur et universitaire, qu'ils avaient invité, suite à la rediffusion d'une émission, je crois, Vision et Réalité. On avait eu à entendre le ministre. Alors, il fallait qu'on entende aussi l'autre son des cloches. Je crois que c'est ce que exige votre déontologie journalistique. Alors, il fallait qu'on entende aussi l'autre son des cloches, le professeur Kalindi, qui a été provoqué. Alors, il a eu à entendre le professeur. Du fait qu'il a eu à balancer les propos du ministre, ainsi que les propos du professeur recteur Kalindi, alors cela a fait déborder la base, madame. Et a expliqué le ministre d'un coup, il va faire appel à sa garde. La garde qui va venir tombera d'abord sur le caméraman, qu'on a eu à corriger sérieusement. Et ça a été corrigé par ses collaborateurs entre autres chargés de presse.
Quand vous dites corriger, ça veut dire quoi concrètement?
Corriger, c'est tabasser. Je veux dire qu'ils ont été tabassés copieusement puisque le caméraman en est sorti avec l'œil droit qui est touché, il avait une blessure au genou, et si voici le thorax, et ça j'en ai sorti avec le t-shirt qui était en bas de la chemise déchirée, cravate qui était descendue jusqu'au deuxième bouton, ils ont été évacués. Après avoir tabassé, ils sont sortis de là.
Tout ça s'est passé où?
Dans le cabinet et devant le ministre d'État, puisqu'on a eu tabassé le journaliste devant lui, et assis dans sa chaise en train de regarder l'événement.
Ce qui s'est passé, tout le monde le sait, mais quelles actions avez-vous menées déjà au niveau de la justice?
Oui, nous avons saisi le parquet général de la République. La plainte a été déposée. Alors nous tenons à ce que la justice soit faite puisque nous ne pouvons pas accepter.
Voilà, ça c'était le cas du journaliste Eustache, hein, Eustache qui évolue à Horizon 33, ainsi que son caméraman, qui ont été agressés aussi. Ça s'est passé dans le bureau même du ministre, hein, d'après les informations qu'on a reçues. On aura certainement à compléter cela avec notre invité Donna Mbaya, qui est président de l'ONG Journaliste en Danger, qui est déjà là. Alors, pour évoluer sur la question, je dis, quelle est la réaction de l'UNPC, hein, Chantal Kanimbo, sur cette agression? Comment elle a réagi?
Oui, toujours selon Chantal Kanimbo, une lettre ouverte a été adressée au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'aux deux présidents des deux chambres du Parlement pour exiger une sanction exemplaire contre le ministre Ngambou. On l'écoute.
J'ai vu la réaction officielle de l'UNPC par rapport à ça. L'UNPC qui, avec toutes les organisations professionnelles, avait décrété un embargo contre le ministre. Je crois que vous savez la réaction que nous avons eue dans le microcosme politique congolais, plus précisément la réaction de l'Assemblée nationale qui a écrit effectivement au Premier ministre, puisque nous avons reçu la copie du courrier du président de l'Assemblée nationale au Premier ministre, demandant au Premier ministre d'interpeller le ministre incriminé parce que le comportement qu'il a affiché est un comportement inacceptable et scandaleux par rapport à un homme d'État qui a des responsabilités à ces niveaux.
Que dit la loi congolaise, la justice congolaise à ce sujet? Quels sont les droits des journalistes qui sont agressés, hein, régulièrement ici au Congo? Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à réagir au 081 070 20 50. Vous souhaitez aussi témoigner, vous êtes les bienvenus. Nous avons également une autre adresse e-mail, cette fois-là, c'est action@radiocapi.net. Je dis leur merci beaucoup. Hein.
Je vous en prie.
Nous allons recevoir maintenant nos invités.
Le sourire du jour, Radio Okapi.
Voilà, nous avons deux invités pour cette chronique consacrée à l'ONG Avocats sans frontières aujourd'hui. Nous avons pour le droit des journalistes en RDC, le sujet qui vous concerne. Nous avons notamment Donna Mbaya, qui est le président de l'ONG Journalistes en Danger. Nous avons, comme à l'accoutumée, hein, c'est-à-dire chaque lundi, vous savez que nous recevons Maître Dominique Kamwandou de l'ONG Avocats sans frontières. Ils sont là justement pour nous éclairer davantage sur les droits des journalistes en République démocratique du Congo. Il y a bon nombre de journalistes qui ont été agressés, d'autres même qui ont été tués. Qu'est-ce qu'on fait les droits des journalistes en RDC, et est-ce qu'on veut parler encore aujourd'hui de liberté de la presse en RDC? Est-ce que ça existe? Nous avons justement Donna Mbaya qui est bien placé pour nous le dire, nous rappelant qu'il est président de l'ONG Journalistes en Danger. Donna Mbaya, nous commençons par vous, bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlons du droit des journalistes en RDC. Bon nombre aimerait savoir, pour commencer, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la liberté de la presse en RDC?
Oui, on peut parler de la liberté de la presse parce que nous sommes là devant les micros et que personne n'est entré ici pour nous empêcher de parler. En venant ici, j'ai vu qu'il y a plusieurs publications dans la rue. C'est que la liberté de la presse est une réalité, mais le problème, c'est que cette liberté est souvent violée. Non seulement violée, elle est même souvent méprisée. Et de mémoire de journaliste, et je dirais même de mémoire de GED, je n'ai jamais appris que les pouvoirs publics ont sanctionné quelqu'un qui a violé la liberté de la presse. C'est ce qui m'inquiète plus pour cette liberté qui est une composante d'une liberté fondamentale qui est celle de la liberté d'expression.
Parlons des journalistes qui ont été, certains ont été tués, d'autres agressés. Vous connaissez le cas de Serge Maïché qui a été abattu. Hein. Il y a aussi le cas du couple Franck Guiquet, abattu également. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Nous savons que dernièrement, il y a un journaliste, Stache, qui a été agressé dans le bureau d'un ministre. Oui. Là aussi, on ne dit rien. Il y a beaucoup de cas comme ça.
Ça c'est vraiment scandaleux, et si le Premier ministre ne réagit pas, nous, comme on l'a dit, ce serait un signe de plus pour montrer qu'on a du mépris pour les citoyens au nom desquels on prétend gouverner, parce qu'un ministre, quelle que soit la faute du journaliste, dans son bureau, faire passer à tabac des journalistes, c'est indigne de ces fonctions-là. Je vous dis, même ici à Radio Okapi, si deux journalistes osent se battre, tous les deux sont révoqués. Tous les deux sont révoqués, c'est ça la loi dans toutes les entreprises. Alors, à plus forte raison, un membre du gouvernement qui fait passer à tabac des journalistes dans son cabinet, dans son bureau, à ses ordres, mais ça c'est... Je me demande pourquoi ça traîne. L'Assemblée nationale, comme le disait Chantal tout à l'heure, l'Assemblée nationale s'est saisie du dossier parce que c'est scandaleux. Et moi, je suis étonné de voir que il y a certains médias, dont un média dit public et un autre journal, qui prétendent que les journalistes sont allés pour agresser le ministre. Mais c'est scandaleux. Ça ferait rire même les vaches. Vous voyez un peu, tel que vous connaissez nos ministères, donc dès l'entrée il y a déjà des malabars qui sont là, à chaque niveau il y a des policiers et d'autres personnes, et vous voyez les journalistes escalader tout ça et se retrouver en face du ministre et commencer à le menacer.
Oui, mais d'après les témoignages qu'on aurait eu, les deux journalistes, parce que vous parlez de ce cas-là, seraient venus pour interviewer le ministre, mais les choses ne se sont pas passées comme convenu.
Non, je vais vous dire que les deux journalistes sont arrivés au cabinet à l'invitation du ministre, et les relevés de Celtel peuvent le prouver. L'attaché de presse a appelé Eustache avec le téléphone du ministre. On peut aller à Celtel et Celtel va le confirmer. C'est comme ça que les deux journalistes sont arrivés au cabinet.
Sur invitation du ministre.
Sur invitation du ministre. Et dès qu'ils sont arrivés, ils sont allés directement, on les a conduits directement dans le bureau du ministre.
Ils ne vous ont pas dit pourquoi
Non, le ministre les a invités. Les journalistes sont allés. Ils ont fait un travail avec lui le week-end et il les a appelés le lundi. Pour réagir certainement, pour peut-être dire ce qu'il en pensait. Et le ministre a trouvé anormal que quand lui parle, qu'on puisse donner la parole à un contradicteur qui se trouve être un recteur suspendu. Alors vous voyez, ça c'est même une ignorance.
Non seulement du métier des journalistes. Monsieur Denat, d'aucuns parlent de l'affaire Coupage dans tout ça, parce qu'aujourd'hui nous devons les reconnaître. Ouais. Vous avez fait un travail et le ministre vous rappelle un peu plus tard l'évaluation ou les débats. Le briefing n'est pas fait dans le bureau du ministre. Pourquoi ne pas avoir une personnalité, nous journalistes aujourd'hui, un ministre qui a déjà réalisé un travail avec vous et vous rappelle pour peut-être vous donner des émoluments et vous présenter.
Ou peut-être qu'il l'avait fait avant.
Vous l'avez fait avant.
Non, écoutez, moi je n'ai pas reçu information que ce jour-là le ministre les a appelés pour prendre de l'argent. Je n'ai pas reçu cette information.
Non.
Même si j'admets que c'est une pratique courante que nous déplorons toujours, parce que nous considérons que on ne peut pas vendre sa plume, on ne peut pas aller toucher de l'argent parce qu'on a fait un travail qui pour lequel on est rémunéré par ailleurs par son employeur. Nous trouvons cela inadmissible. Nous on appelle ça de la corruption tout simplement.
Mais vous à votre niveau, parce que bon, il y a de plus en plus d'agressions des journalistes, il y a même certains qui sont tués. Vous vous rappelez du cas de journaliste de Radio Capi, Serge Maïché, qui a été abattu. Il y a aussi un autre cas dernièrement, Fiston Goma, qui a été agressé. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites, vous, pour revendiquer les droits des journalistes au sein de Journalistes en Danger?
Bon, vous savez, Journalistes en Danger, c'est un groupe de pression. Ça veut dire, nous avons dit, nous, on va rompre ce que nous appelons la complicité du silence. Ça veut dire, chaque fois qu'il y aura une attaque contre la liberté de la presse, une attaque contre les journalistes, nous avons pris, nous, l'engagement de ne pas nous taire. Et de revendiquer jusqu'à ce que réparation soit faite, jusqu'à ce que justice soit faite.
Mais vous avez toujours revendiqué, mais on dirait, dans les concrets, il n'y a rien de bon.
Mais vous savez, nous n'avons pas les armes, nous ne pouvons pas.
Pourquoi ne pas associer les hommes de droit, c'est ceux-là qui disent
mais
les droits.
Je vous dis que l'affaire Serge Maïché se trouve devant la justice, l'affaire Franck Nguyké se trouve devant la justice, et nous, on continue à suivre. Les avocats de GED sont là en train de continuer à défendre la famille de Nguyké. Aujourd'hui, ils sont en appel. Et j'étais heureux que le week-end, il y a une télévision de la place qui a retransmis le procès de Nguyké. J'étais agréablement surpris. Et il ne faut pas simplement parler des avocats ou de GED, mais qu'est-ce que les journalistes font pour ces choses-là? Combien de médias parlent encore de Serge? Combien de médias parlent encore de Nguyké, de Bapoua, de Patrick Kikuku? C'est ça la mobilisation. Il faut que les médias se mobilisent. Ici, vous savez, le jour où on marchait, il y a un Bado qui a dit ouais, les journalistes, on les connaît, demain ils vont oublier. Je crois qu'il avait raison. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir oublié.
Maître Dominique.
Par rapport à de PGR, parce que tout récemment, il y a le procureur général de la République qui a presque abordé le sujet dans le sens que désormais, les journalistes seront sanctionnés au cas où il y a diffamation.
Non, vous savez, j'ai l'impression que dans notre pays, on croit que les journalistes empêchent de dormir. Moi, je crois que c'est totalement... D'abord qu'on commence à rendre justice aussi aux journalistes. Il y a des journalistes qui ont été tués. Le procureur général de la République, on l'a saisi. Moi, j'ai été entendu pendant 2 jours, presque pendant 6 heures fois 2 jours, ça fait pendant 12 heures, comme si j'avais tué Franck, simplement parce que mon organisation a conduit une enquête qui a soulevé des pistes que la justice refuse de suivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi je ne sais pas, vous savez, je vais reprendre un peu la réponse du président de l'Assemblée nationale au procureur général de la République. Quand il dit qu'il y a impunité parce qu'on n'a pas levé la mesure, on n'a pas levé l'immunité de Jean-Pierre Bemba, on n'a pas levé l'immunité de Moami, le chef spirituel de Bundu Dia Congo. Mais le PGR ne va pas nous convaincre que si la justice va mal, s'il y a impunité, c'est à cause de ces deux cas.
Donna Mbaya, on va
revenir.
Il y a
plein de choses. Pour rester dans le domaine des journalistes, il y a beaucoup d'attentes contre les droits des journalistes qui restent impunis. Nous écrivons dans nos archives, nous écrivons beaucoup de lettres au procureur général de la République. Je vais vous surprendre. Quand on lui écrit au mois de janvier, on reçoit la réponse au mois de janvier de l'année prochaine.
La lanterne administrative.
on revient sur vous dans un instant. Maître Dominique Kamwando, vous êtes membre de l'ONG Avocats sans frontières. Les journalistes ont des droits, paraît-il, en RDC, mais bon, on a du mal à voir ces droits. Est-ce que ces droits, pour commencer, existent et est-ce qu'ils sont respectés?
Merci beaucoup, Nicole. Merci, Gère. Les droits des journalistes, autant que les droits de tous les citoyens, sont aujourd'hui garantis par les instruments juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux. Nous avons la Constitution qui est très explicite sur le droit et particulièrement sur la liberté de la presse. Donc, les journalistes jouissent conformément au texte de la liberté et de l'indépendance qu'il faut dans l'exercice de leur profession. Et pour cela, ils doivent aussi jouir de la protection des autorités publiques qui doivent garantir leur sécurité. Et lorsque leurs droits sont violés, ils ont le droit de saisir la justice pour que des procédures soient initiées et que des décisions soient prises pour mettre effectivement fin à l'impunité, parce que l'impunité est l'une des causes qui fait que des gens continuent à violer régulièrement les droits des autres.
Il y a un auditeur qui aimerait savoir quels sont les droits des journalistes congolais.
Les droits des journalistes congolais, les journalistes congolais a d'abord droit à la liberté de mouvement dans l'exercice de sa profession. C'est pour cela que la loi sur les modalités, sur l'exercice des modalités, les modalités de l'exercice de la liberté de la presse prévoit que les autorités accordent aux journalistes des facilités dans la recherche et dans la collecte des informations. On peut même leur donner des laissez-passer pour faciliter leur accès à des sources d'informations. Donc il y a d'autres droits. Ils ont droit, comme tout homme, à l'intégrité physique de leur personne, à l'inviolabilité de leur domicile et bien d'autres.
Il y en a un qui nous dit, un autre, qui nous dit que les journalistes ont des droits, c'est vrai, mais ils ont aussi des devoirs. Alors, comment expliquer que quand un journaliste est interpellé, tous les journalistes s'insurgent, mais quand ils dérapent, aucun journaliste n'en fait allusion. C'est pourquoi, enfin, personne ne vous prend au sérieux. C'est un auditeur qui le dit, personne ne prend les journalistes congolais au sérieux. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Pas totalement. Je sais que dans plusieurs cas que l'on observe, souvent, nous assistons à des cas où des autorités ou des personnes font de l'abus d'autorité et de pouvoir pour pouvoir brimer, pour pouvoir museler la presse. Mais quelque part aussi, il y a des journalistes qui manquent de professionnalisme, qui font aussi des peu d'excès de zèle dans l'exercice de leur métier, qui arrivent aussi à violer la loi. La loi demeure, moi je pense, la garantie pour tout le monde, aussi bien des journalistes que des autorités et de tous les Congolais. Il faudra que lorsque la loi est violée, que des procédures légales soient mises en œuvre pour pouvoir garantir la sécurité juridique de tous.
Oui, Maître Dominique, pour le dernier cas que nous avons connu, Destache et son caméraman qui ont été passés à tabac dans les bureaux d'un homme d'État, quelle procédure suivre pour, disons, rentrer dans ce droit?
En principe, selon les informations que nous avons suivies, il s'agit des journalistes qui ont été séquestrés, tabassés dans sur ordre du ministre. Les ministres étant justiciables de la Cour suprême de justice, les victimes peuvent se plaindre auprès du procureur général de la République.
Et ils doivent le faire, est-ce qu'il y a un délai?
En principe, on doit se plaindre, ça dépend des infractions, mais les délais est largement encore valable parce que ce qui ne peut mettre fin aux poursuites dans ces cas, c'est la prescription. Mais lorsque l'on voit les infractions telles que coups et blessures volontaires, et tout ce que les infractions qui ont été commises, ce ne sont pas des infractions qui se prescrivent en un an ou en moins d'un an. Donc, il y a encore suffisamment de délais pour pouvoir se plaindre et pouvoir mettre en mouvement la machine.
Mais il y a bon nombre de gens qui ne font pas confiance à la justice congolaise. Les journalistes ne font pas confiance à la justice congolaise. Comment voyez-vous, en fait, les cas des journalistes abattus, les procès qu'il y a eu, notamment pour le cas de Serge Maéché, pour le cas du couple Franck Guiquet? Est-ce que vous pensez réellement que la justice a bien fait son travail, maître?
Pour pouvoir se décider ou prendre position sur une décision judiciaire, il faut pouvoir la lire, lire toutes les motivations du juge, lire les arguments des uns des autres, parce que c'est ça qui explique l'équitabilité ou la loyauté du combat judiciaire. Il y a des parties, chacun présente ses argumentations et la partie qui est mise en cause présente ses moyens de défense, et c'est à la lecture de toutes ces déclarations et à la lumière de la loi que l'on peut arriver à prendre position. Pour ce qui est du cas de Serge Maéché, nous avons tous suivi que ceux qui ont été présentés devant le tribunal comme Avocats sans frontières,
des
avocats étaient là pour pouvoir assurer l'assistance judiciaire, mais ce n'est pas moi personnellement, mais il y a eu, sur base des argumentations des uns et des autres, un jugement des condamnations. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après que les tribunaux se soient décidés sur base des dépositions faites par les parties, les prévenus se sont rébiffés pour dire que ce n'est pas le cas. Alors là, il faudra peut-être qu'au niveau de l'appel, on puisse réexaminer l'affaire.
Donc il faut faire appel.
Je crois qu'il doit y avoir eu un appel interjeté par les condamnés. Je crois que la cour militaire des Boucan vous pourra restatuer sur le cas.
Et que dire du cas de Franck Guiquet, puisqu'on parle des cas, les journalistes abattus, que dire du cas de Franck Guiquet?
Le cas de Franck Guiquet
et de son épouse.
Et son épouse, effectivement, le procès est en train de se dérouler. Il a causé.
On a comme l'impression que c'est un procès, interminable, et puis c'est à l'éternité qu'on contient ce procès.
Je vous rappelle que le 2 novembre dernier, ça faisait 2 ans que Franck a été tué.
Deux ans.
Le procès se trouve encore là où il est. Et moi je vais vous dire, je crois que cette affaire, nous on l'a suivi de très près. Est-ce que vous trouvez normal que le tribunal, au premier degré déjà, et même au second degré, commence à instruire une affaire sans faire une descente sur les lieux du crime? Ils ne sont jamais allés sur le lieu du crime.
C'est dommage.
Donc, les seuls qui sont allés reconstituer le crime, c'est la police. Donc l'instruction préjuridictionnelle, comme on dit. Mais ça ne suffit pas. Le juge devait se faire sa propre conviction. Il devait descendre sur le lieu. Ce travail n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de confrontation entre certaines personnes. Parce qu'il y a des déclarations où quelqu'un dit tel, ici telle personne. Mais ces gens n'ont jamais été, il n'y a jamais eu confrontation.
Mais monsieur Dena,
il y a beaucoup de...
Aujourd'hui parlons un peu de cette lettre ouverte, disons adressée au chef de l'État et puis au Premier ministre. C'est comme si vous ne faites pas les suivis et tout ça.
Faire le suivi
par rapport à Eustache.
Faire le suivi, c'est-à-dire quoi? Quand on a écrit à une autorité, on attend que l'autorité réagisse.
Et s'il ne réagit pas, c'est à vous de faire pression, d'une certaine manière.
Oui, mais l'autorité ne réagit pas. On continue à faire de la pression, ne vous en
réalisez
pas.
Peut-être des marches.
Le fait de rappeler chaque fois un cas, c'est une forme de pression. Les marches, vous savez que nous les avons organisées dans ce pays et qu'on va continuer à en organiser tant qu'on n'aura pas accepté que la liberté de la presse soit une réalité vivante de notre démocratie en construction.
Mais les gens qui parlent de la liberté de la presse comme un mythe et pas une réalité en République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Oui, vous savez, la liberté de la presse, on peut passer une journée entière à en parler. Nous parlons aujourd'hui de la part qui est celle des pouvoirs publics de garantir cette liberté-là. Un de vos éditeurs a parlé aussi des droits des journalistes. Tout ça, ça fait partie de la liberté de la presse. Ça fait partie de la liberté de la presse.
Mais selon vous, est-ce que les journalistes commettent des fautes? Parce que depuis Boutembo, Mambola Cédric vous pose la question suivante. Il dit, quelles sont les infractions propres aux journalistes? Ils ne sont pas soumis au droit commun?
Non, aujourd'hui, dans l'état actuel de la législation, d'abord, le journaliste est un citoyen comme tout autre citoyen, donc susceptible de commettre toutes les infractions de droit commun. Ce n'est pas parce qu'il est journaliste qu'il est au-dessus de la loi. Non. Le journaliste peut être le soir en train de prendre un verre et se bagarrer. Il répondra de cela. Sa qualité de journaliste ne le met pas à l'abri de cela. Mais ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est que dans l'exercice de son travail, que le journaliste ait un privilège. Pas de ne pas répondre devant la justice, mais de ne pas aller en prison parce qu'il a dit ou parce qu'il a écrit. Mais il doit aller répondre devant le juge parce qu'il n'y a pas de liberté de la presse.
Les journalistes commettent souvent des fautes aussi.
Oui, ils commettent des fautes. Mais est-ce que ces fautes méritent nécessairement que le journaliste aille en prison?
Ou qu'il soit battu.
Ou qu'il soit battu, ou qu'il soit assassiné. Voici le problème, voici le débat.
Mais le travail devait être fait, reconnaissons-le, Monsieur Donat, devait être fait par le GED, par l'UNPC, parce qu'on remarque un déficit,
un
déficit d'information. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de moutons noirs, des gens qui ne sont pas informés. Mmh. D'abord, ce qui est de l'époque, quelle est la déontologie.
Je vais vous contredire tout de suite. Oui. Je vais vous contredire tout de suite. Il n'y a pas un seul journaliste qui ne connaît pas ses droits et ses obligations. Il n'y a pas un seul. Et je vous dis, le problème des journalistes congolais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de séminaire, de formation, d'atelier, de ceci.
On a dépassé cette étape.
Non, les gens savent ce qui est mauvais. Mais les gens sont dans des conditions, face à des défis existentiels. Vous vous rendez compte, il y a des médias ici où il n'y a pas de salaire. Que voulez-vous que ce journaliste la fasse? Je ne justifie pas ça. Mais je me dis que ce n'est pas normal que quelqu'un travaille et qu'il n'ait pas un salaire. Qu'il soit journaliste ou pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des médias où le journaliste, ce qu'il touche à la fin du mois, ne lui permet même pas de prendre son taxi pour arriver à son lieu de travail chaque jour pendant un mois.
Il y a des journalistes qui travaillent sans contrat de travail.
Et j'ajouterai aussi, il y a des journalistes, comme il y a d'autres citoyens, qui sont foncièrement malhonnêtes. Même si vous lui donnez $1 million, demain, ça ne l'empêchera pas de prendre $50. Voilà tout.
Le coupage, c'est ça qui tue en fait le journaliste congolais.
Donc, le problème, ce n'est pas tellement que les gens ignorent quelles sont les limites de leur liberté, que les gens ignorent leurs obligations, les gens le savent très bien.
Mais aujourd'hui, si GED, parce que bon, il faut aussi le dire, hein, il faut le reconnaître que GED n'arrive pas à aller jusqu'au fond du problème, n'arrive pas à revendiquer comme il se doit, parce que jusque-là, bon, il faut le reconnaître, il y a eu plusieurs cas, mais bon, comment ça a évolué?
Mais je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez que sous Mobutu, et même à l'arrivée de l'AFDEL, aucun journaliste tué n'avait déjà eu droit à un procès dans ce pays-ci. Il y a eu les Adolphe Kavula, il y a eu les Pierre de Kien Mata, il y a au moins 5 procès, il y a eu Belmonde Magloire. Jamais eu droit à un procès. Pour la première fois dans ce pays, il y a eu un procès pour des journalistes assassinés.
Donc il y a eu évolution.
Parce que nous avons, face à une enquête, je continue à le dire aujourd'hui, une enquête bâclée. Nous avons, fait une enquête journalistique qui a soulevé des questions et aujourd'hui le procès de Ngui qui se déroule.
Mais il n'y a pas eu que GED, il y a eu l'UNPC, il y a eu Avocats sans frontières, peut-être
pas,
aussi.
Je ne dis pas que c'est GED tout court, mais je dis que GED a joué un rôle important. Et je ne pense pas que des gens que vous venez de citer, que je respecte beaucoup, ont subi ce que nous on a connu dans l'affaire de Ngui. Qui a été entendu? Nous, on a été entendus. Jusqu'aujourd'hui, des gens nous menacent pour l'affaire de Ngui. On veut qu'on n'en parle pas. On veut qu'on ne parle pas de Maéché. Pourquoi on nous menace? C'est parce que nous tenons à ce que ces procès se déroulent et arrivent jusqu'au bout.
Il y a plusieurs questions qui nous arrivent, Dona Maya, Maître Dominique Amanda. Aujourd'hui, on ne vous donne pas tellement la parole, il faut le reconnaître. Mais bon, les questions qui nous arrivent s'adressent beaucoup plus à Dona Maya, de l'ONG Journaliste en Danger. Quel est le comportement que devra afficher un journaliste une fois qu'il est victime de violence en plein exercice logique de son métier? Ça, c'est la question que vous pose Dieudonné Chimbo de Bukavu.
Non, d'abord, c'est de ne pas se taire, de pouvoir le dénoncer et de pouvoir... Il faut que les gens apprennent à saisir la justice. Il ne faut pas être victime et continuer à se taire. La démocratie ne peut pas se construire si on ne peut pas saisir la justice. Quand vous êtes victime d'une injustice, vous êtes victime des actes répréhensibles par la loi, il faut saisir la justice.
Voilà, donc il faut saisir la justice. Honorable Diane Paulin, depuis Kisangani, qui réagit souvent d'ailleurs dans cette émission, nous dit « La liberté d'expression et les droits des journalistes ne sont pas totalement respectés. En plus, les journalistes manquent de déontologie professionnelle pour la plupart. La profession est noble, mais les animateurs, dans la majorité, déshonorent parce qu'ils sont cupides et peureux. » Ça, c'est ce que nous dit Odiane.
Bon, je crois qu'il n'a pas totalement tort sur toute la ligne. Il a raison. Il juge les médias. Il est consommateur du travail des médias et il juge. Il y a des cas où on se pose des questions sur des questions d'éthique et de déontologie. Là, je reviens à une question préalable que vous aviez posée. Je crois que c'était lui. Comment devient-on journaliste dans notre pays? Ça, c'est une question essentielle. Et j'ai l'impression que depuis des années, tout le monde se pose cette question, mais personne n'arrive à réglementer comment on devient journaliste, comment on le demeure et comment on quitte.
Parce que réconsoler, aujourd'hui, il y a quand même des ordres.
Il faut commencer.
Il faut assainir les...
Oui.
On n'a même pas, on ne sait même pas combien de journalistes il y a en RDC.
Mais c'est sûr, ce sont des défaillances. Nous sommes allés au congrès en mars 2004, je crois. C'était pour, on avait appelé ça le congrès de la refondation. C'était justement pour essayer de mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, je ne veux pas anticiper sur l'évaluation qui va être faite. Je crois qu'on n'a pas fait de grand chemin. Parce que moi, je ne pense pas.
Oui, juste une question avant que je ne me perde, une question de curiosité.
Maître Dominique,
que prévoit la législation congolaise à l'endroit de quelqu'un qui bafoue la liberté de la presse?
Ça dépend des actes posés. Et ces actes doivent être constitutifs d'infractions.
Alors,
non, moi, je crois que je vais un peu essayer de contredire. Justement, la faiblesse de notre législation, c'est que, en dehors des faits comme le passage à tabac, comme les blessures, comme les ceci, il n'y a aucune disposition qui sanctionne les atteintes à la liberté de la presse. Je vais vous donner un exemple. Vous allez chercher une information quelque part, monsieur vous dit, allez vous faire voir ailleurs, je ne vous donne pas l'information. Le journaliste fait quoi? Rien du tout. Il rentre, puis c'est tout. Ce n'est pas normal dans
une démocratie. Mais il devrait faire quoi?
Non, ce n'est pas normal dans une démocratie. Toutes les personnes dépositaires d'un mandat public, à quelque niveau que ce soit, devaient être obligées par une loi de donner l'information. Et le refus de pouvoir donner cette information devait permettre aux journalistes de saisir une autorité administrative qui devait statuer sur ce refus-là, parce qu'il s'agit d'une atteinte au droit à l'information.
Maître Dominique Amandou, ainsi que vous, Donna Mbaya, il y a beaucoup à dire sur la question. Question concernant les droits des journalistes en RDC, on peut tout dire aujourd'hui. On va revenir sur cela parce qu'on a eu beaucoup de réactions. Dans ce studio, on se retrouve avec plus d'une vingtaine de réactions.
Une trentaine même.
C'est une trentaine. C'est beaucoup. Il faut qu'on revienne là-dessus, Donna Mbaya, prochainement. Maître, merci. Et à la prochaine.
Merci.